20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec le pianiste Jonathan Fournel que nous passerons un moment ce soir, alors que vient de paraître son premier album en concerto avec deux concertos de Mozart, enregistrés en compagnie de l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra, comme tous les mardis, pour nous dresser cette semaine le portrait de la jeune mezzo-soprano Juliette May. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Les nouvelles saisons se dévoilent cette semaine en attendant celle de la Philharmonie de Paris et celle de l'Opéra National de Paris. Jetons un coup d'œil ce soir sur celle du Théâtre des Champs-Élysées, la saison 2024-2025 donc, qui sera la dernière de son directeur Michel Franck, après 15 ans et 3 mandats à la tête de l'institution musicale de l'avenue Montaigne. Alors une riche programmation avec pas moins de 178 levées de rideaux, dont 6 opéras mise en scène, 22 opéras et oratorios en version de concert et de très nombreux concerts symphoniques, récitals et ballets. Bref, cet éclectisme qui a toujours fait l'identité de cette maison. Parmi les grands rendez-vous lyriques à ne pas manquer, c'est Mêlé de Handel, dirigé par Emmanuel Haïm, avec notamment Pretty Yende, Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss, dans une mise en scène de Christophe Warlikowski ou encore Werther de Massenet, que dirigera François-Xavier Roth, avec Benjamin Bernheim et Marina Viotti. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Et puis nous aurons l'occasion de revenir sur cette saison avec Michel Franck, qui sera prochainement notre invité dans le journal du Classique. Le Banquet Céleste, l'ensemble créé et dirigé par Damien Guillon, fête ses 15 ans cette année. Et pour l'occasion, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire sacré, que Damien Guillon d'ailleurs a maintes fois chanté, que ses musiciens et chanteurs interpréteront en tournée ces prochains jours. Il s'agit d'une œuvre de circonstance, à l'approche de Pâques, la Passion selon saint Matthieu de Bach. Première étape de cette tournée, vendredi et samedi à l'Opéra de Rennes, lundi 26 à la Cité des Congrès de Nantes, mercredi 27 à Poitiers et vendredi 29 à Arnstadt en Allemagne. Bach, le compositeur avec lequel Damien Guillon a lancé il y a 15 ans cette aventure du Banquet Céleste, et un compositeur qu'il n'a cessé de fréquenter avec son ensemble. De la cantate Ich habe genug de Jean-Sébastien Bach par Damien Guillon et son Banquet Céleste. Damien Guillon qui dirigera son ensemble dans la Passion selon saint Matthieu de Bach à Rennes, Nantes, Poitiers et Arnstadt du 22 au 29 mars.
Laure Maison sur Radio Classique.
Il s'était révélé il y a un peu plus de 3 ans en remportant le prestigieux concours Reine Elisabeth. Il poursuit depuis un beau parcours international, nous a offert un merveilleux album en solo dédié à Brahms et vient de s'illustrer pour la première fois au disque en concerto dans 2 concertos de Mozart. Jonathan Fournel nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors cet enregistrement que vous avez réalisé avec Howard Griffiths et l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, il a été publié par Alpha dans le cadre d'une remarquable collection que l'on adore en tout cas à Radio Classique, qui met à l'honneur des musiciens de la nouvelle génération dans des concertos de Mozart. Un disque en concerto, c'est une étape importante dans le parcours, dans la vie d'un jeune musicien, j'imagine.
Oh ben bien sûr. De commencer aussi par Mozart, c'était aussi une très très belle expérience. C'est un peu passer des Bajas par la musique de chambre pour essayer d'aller un peu plus loin, peut-être plus tard dans la musique symphonique. Et comme c'était deux concertos que j'avais déjà beaucoup joué avant, c'était un peu le choix idéal pour commencer à se présenter dans ce type de répertoire. On va avoir la chance d'enregistrer avec le Mozarteum, qui est quand même pas n'importe quel orchestre. Donc c'était déjà une belle expérience sur place pour voir comment ça se passe aussi avec les séances, avec le chef d'orchestre, et de réaliser un CD en 3 jours et en quelques heures finalement, parce qu'on n'a pas autant de temps que lorsque l'on est tout seul. Et l'échange avec le chef est aussi quelque chose de très important pour essayer de savoir dans quelle direction on a envie d'aller. Donc c'était une belle expérience, un beau commencement.
Alors vous avez enregistré les 18e et 21e concertos, Jonathan Fournel. Le 18e, c'est un concerto qui vous a porté chance, vous l'avez joué. Oui. Je crois que c'est la demi-finale, hein, lors de la demi-finale du concours Reine-Elisabeth. Vous l'avez rejoué depuis. Ce n'est pas le plus connu des concertos de Mozart. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le jouer, de le défendre? Qu'est-ce qui vous touche dans cette partition?
En fait, au tout début, lorsque j'avais voulu participer au concours Reine-Elisabeth, dans la liste des concertos pour la demi-finale, en fait, il n'y avait pas ceux que j'avais joués. Mais par contre, il y en avait d'autres comme le 27e, comme le 18e, le 17e. Et sur le moment, c'est vrai que je m'étais posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je fais justement le 23e que j'avais pas joué? Mais pourquoi pas? Parce que c'est celui que je connaissais le mieux, celui qu'on a le plus dans l'oreille. Oui. Et puis, en concertation avec mes professeurs de l'époque, qui étaient Louis Lorty et Yavo Kouyongjian, on s'était dit, peut-être le 23, je me suis dit, j'aimerais peut-être bien faire le 23. Ils disent, le 23, c'est vrai, il est magnifique, mais bon, il va y avoir peut-être aussi beaucoup de personnes qui vont le faire. C'est peut-être plus intéressant d'arriver avec quelque chose de plus nouveau et qu'on pourrait vouloir défendre d'une manière différente. C'est là que, il m'avait plus dirigé vers ce concerto-là, le 18e concerto, que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, mais ce qui m'a fait craquer vraiment dès la première écoute, c'était le deuxième mouvement, qui est un peu une deuxième version un peu plus courte du Requiem. C'est comme ça que je me suis mis à travailler ce concerto et qu'après j'ai davantage découvert quand même le premier et le troisième mouvement.
Et est-ce que quand on joue, Jonathan Fournel, un concerto qui est relativement peu connu de Mozart, dont les auditeurs n'ont pas forcément beaucoup de références, est-ce que finalement on se sent plus libre que lorsque l'on joue le 23e ou le 21e que vous avez également enregistré?
On peut se sentir plus libre, mais ce que je trouve très intéressant, c'est justement tout ce travail de recherche dans une pièce qu'on n'a pas déjà dans l'oreille. Et en fait, toutes ces étapes par lesquelles on va vouloir passer, même le choix des cadences, et de ne pas avoir déjà ce thème dans la tête ou d'avoir peut-être des idées préconçues, ça peut servir à vouloir aller plus loin avec une oreille beaucoup plus fraîche. D'arriver sans forcément ses propres idées, mais d'arriver en se disant que ça doit être joué comme ça, parce qu'on l'a entendu comme ça, mais sans s'être posé la question de savoir si c'était la bonne solution. Et finalement, j'ai beaucoup aimé, ça me donne d'ailleurs envie de vouloir faire peut-être aussi d'autres concertos de Mozart qui sont peut-être moins joués, et je pense qu'ils sont pas forcément moins bien d'ailleurs. Thank you.
Le final du 18e concerto de Mozart par Jonathan Fournel et l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Howard Griffith. C'est un enregistrement qui vient de paraître chez Alpha et que l'on écoute ce soir sur Radio Classique avec Jonathan Fournel. Mozart avec cet orchestre du Mozarteum de Salzbourg, c'est naturel, c'est limpide, c'est une évidence.
On sent qu'ils ont un peu joué ça toute leur vie.
Et qu'ils portent une tradition depuis des siècles.
On ressent ça même pendant les répétitions. Bah, c'était quand même assez étonnant de voir que, par exemple, quand même, le 18e n'était pas un concerto qu'ils avaient beaucoup joué. Donc, même là-bas, le 18e n'était pas un concerto qu'ils ont joué. Mais ils ont quelque chose dans le style et dans l'expérience. Déjà, d'un orchestre de chambre, donc c'est pas un énorme orchestre symphonique, et de jouer ensemble. Donc, on a joué ensemble avec ce petit groupe de personnes, mais qui est un petit groupe de solistes, mais quand même qui arrive à avoir une homogénéité d'un ensemble de cordes. Ben ça a été un super travail à faire avec eux, bien sûr.
Oui, dans l'esprit de la musique de chambre, de l'échange.
Oui, exactement, bien sûr.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Jonathan Fournel, le mouvement lent du 18e concerto, cette touche dramatique au sein d'une œuvre qui a des accents à côté plutôt légers, plutôt galants. On retrouve cela très souvent chez Mozart, et même dans le 21e concerto, ces deuxièmes mouvements à vous tirer des larmes, et puis en même temps, ce côté dramatique, puis ce côté très léger. Comment trouver le bon équilibre pour mettre en avant justement ce génie mozartien, cet art qu'il avait de nous faire passer du rire aux larmes?
C'est-à-dire, c'est délicat à expliquer, mais je pense que de toute façon, chez Mozart, il y a quand même un peu cette évidence de vouloir imiter des personnages d'une histoire. Donc justement, dans ce concerto de Mozart, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une évidence déjà chez Mozart en général, mais alors avec ses œuvres, particulièrement après les avoir jouées beaucoup, une évidence de se dire que ce personnage pourrait être un personnage un peu plus espiègle. On peut vraiment s'amuser avec des caractères tellement différents et qui ont envie de s'entremêler et de raconter une histoire.
Et quel personnage, Jonathan Fournel, quel personnage mozartien, d'opéra mozartien, percevez-vous lorsque vous jouez le 21e concerto, puisqu'on va se plonger dans le 21e, est-ce que vous voyez apparaître des personnages en particulier?
Ah, alors ça dépend. Par moment, on peut avoir. J'ai un petit côté un peu dans le Don Juan, un peu par moment à l'intérieur du 21e, avec le commandeur qui a toujours un peu comme Dieu qui est là, un petit peu sur le dessus. On a un peu de surveiller un peu les choses sur le dessus. Et qu'en même temps, en dessous, on voit tous ces autres personnages en train de parler entre eux et de vouloir aller au plus profond. Et après, ce que j'essaye de faire, c'est de pas forcément mettre un nom sur le personnage, mais d'essayer d'imaginer les caractères que j'aurais envie de leur donner. Et après, même de voir un peu avec les caractères et ce que l'on vit nous-mêmes un peu aussi tous les jours. Parce que c'est un peu une histoire que l'on voudrait inventer, une histoire que l'on voudrait raconter. Et là, on va dire presque la perfection de la musique, c'est qu'en plus, on peut essayer de raconter un peu ce qu'on veut et de dire ce que l'on veut avec la musique. Que la personne à qui on le raconte ne sera jamais vexée. Puisqu'elle peut l'interpréter de la manière dont elle le veut. C'est juste presque le langage parfait universel.
Thank you.
L'andante du 21e concerto de Mozart avec celui qui est notre invité ce soir sur Radio Classique, Jonathan Fournel, et avec l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg sous la direction de Ward Griffith, un enregistrement qui vient de paraître chez Alpha, l'andante de ce 21e concerto, un mouvement absolument miraculeux. C'est un andante d'ailleurs, ce n'est pas un adagio, ce qui change beaucoup.
Du coup, c'était pas trop trop lent.
Pas trop lent et pas trop trop triste non plus. Il y a un dosage à trouver dans la nostalgie.
En fait, c'est une grande ligne en fait qui se développe pendant, d'ailleurs je sais pas la durée, peut-être 5 minutes, et qui ne s'arrête pas et qui, oui, comme si on passait un peu à travers un paysage et que l'on découvrait quelque chose à regarder qui est magnifique d'un côté et de l'autre côté, mais en prenant quand même son temps d'en profiter à chaque fois, comme un beau voyage.
Avec une légèreté, quelque chose de très poétique hein, en même temps. Vous le rejouerez, Jonathan Fournel, un petit peu plus tard, enfin non, pas si longtemps que ça, au mois de juin. Ce sera au Lille Piano Festival. Vous jouerez le 21e et le 20e concerto avec l'Orchestre National de Lille et avec Alexandre Bloch, puis Joshua Weilerstein. Vous avez un agenda de concert très rempli. Vous avez donné cette saison de grandes tournées en Allemagne et au Japon. Au Japon, où vous retournerez d'ailleurs au mois de septembre. Vous avez joué au Concertgebouw d'Amsterdam. Vous serez bientôt au Concerthaus de Vienne. Vous avez des agendas, des saisons de concert à faire tourner la tête.
Oui, bah c'est des beaux voyages. Hein. Ouais. C'est des beaux voyages à faire.
Vous avez l'impression en ce moment de vivre depuis 2-3 ans des moments, des saisons particulièrement exaltantes.
Il y a vraiment des voyages qui sont assez extraordinaire. Et justement,
et
d'après des sensations, des salles, des sensations aussi à ressentir dans certains endroits. C'est vrai que je suis revenu il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de janvier, du voyage de la tournée au Japon. C'était la première fois d'ailleurs que j'en profitais un petit peu plus que de ne rester que 3 jours. Alors c'était un peu idéal de pouvoir rencontrer cette nouvelle culture. Que ce soit la nourriture, que ce soit la culture, d'aller marcher un petit peu, de voir des choses et de les voir vraiment avec ses yeux plutôt que les avoir vues en images sur les livres de géographie avant. Donc ça fait partie des voyages récents qui m'ont vraiment beaucoup marqué.
Alors parmi les salles prestigieuses où vous jouerez prochainement, il y a le Concerthaus de Vienne, sera au mois de mai. Mais vous n'en oubliez pas pour autant les petites salles, vous n'en oubliez pas le réseau des concerts poche avec lesquels vous avez grandi puisque vous y serez dans quelques jours, les 22 et 23 mars, vous serez à Waterloo dans le Nord, c'est ça?
Oui, avec Kerson Leong, oui, un ami violoniste canadien avec qui donc on va faire un programme en duo. Et il y aura d'ailleurs des œuvres de Fauré. Je crois qu'il va y avoir aussi du Franck, la sonate de Franck. Oui, ben ça a été un concert de poche. Ça a été quand même une association, enfin avec lequel j'ai grandi. Enfin, j'ai connu vraiment les débuts des concerts de poche. Donc j'ai l'impression que ça fait un peu partie de moi, un peu de mon ADN. Là, d'aller dans le Nord, de revoir en plus des gens qui sont toujours vraiment super enthousiastes de venir au concert de poche parce qu'ils sont très heureux de vouloir écouter des concerts que eux verraient uniquement de temps en temps dans des programmes des grandes salles de concerts.
Bah, ils ont le même programme que les Viennois.
Et là, de les avoir chez eux et de les rencontrer. Et puis, en plus, il y a toujours ce rapport au public que l'on ne voit pas forcément dans toutes les salles. Hein, ce rapport au public après les concerts avec ces rencontres, sans oublier les ateliers aussi, donc c'est toujours une sensation quand même assez extraordinaire.
Alors vous jouerez ici en piano-violon, mais vous tournez également avec un programme de récital piano-solo associant Schubert, Franck, Szymanowski et Beethoven, un programme particulièrement riche et dense. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Jonathan Fournel?
Le programme, c'est qu'on commence par les 32 variations de Beethoven. C'est une œuvre que j'avais beaucoup jouée quand j'étais plus jeune, mais cette œuvre est pour moi un petit peu un condensé en 10 minutes, un peu de toutes les plus belles choses de Beethoven. Et cette lancée que j'adore en do mineur qui donne vraiment une belle ouverture au concert et un peu aussi en quelque sorte, entre guillemets, comme un premier mouvement de cette sonate opus 54 qui est une sonate en deux mouvements en plus. Dans le reste du programme, il y a des variations de Szymanowski. J'avais déjà joué du Szymanowski l'année dernière et c'est vrai que je m'étais pris un peu d'amitié avec sa musique. C'était les variations opus 3 que j'avais travaillé l'année dernière, et là ce sont les variations sur un thème polonais que j'ai découvert un petit peu plus tard. Dans ce programme, Schubert, la fantaisie Wanderer, bon, la fantaisie du marcheur, c'est un petit peu, on va dire, un programme de variations entre guillemets. On a les temps de variations, on a ce deuxième moment de la sonate opus 54 qui est un peu une variations du premier mouvement, on a ces variations de Szymanowski, et bien sûr Schubert, ce thème cyclique qui revient tout au long de l'œuvre, la fantaisie Wanderer. Bon, tout cela pour aussi avoir entre les deux quand même un petit souvenir de ce avec quoi j'ai grandi aussi, ce qui est le prélude, fugue et variation de Franck, qui est normalement une œuvre pour orgue, mais que j'ai retranscrit au piano, et c'est vrai qu'il y a toujours une atmosphère assez spéciale, un peu comme une prière et quelque chose sur lequel on peut se recueillir. Oui, c'était un programme sur lequel j'ai eu, en tout cas pour l'instant, beaucoup de plaisir à jouer, sur lequel j'ai eu pour l'instant aussi pas mal de bons échos. Je suis content de pouvoir le continuer, et justement de le faire aussi au Concerthaus. Faire du Beethoven au Concerthaus, on va voir.
Avant le Concerthaus de Vienne, il y aura quand même un rendez-vous en France. Ce sera à Arcachon, dans le cadre du Festival de musique de chambre d'Arcachon, le 20 avril. Vous jouerez ce répertoire. On pourra vous entendre d'ici là également, Jonathan Fournel, au mois de mai. Vous donnerez une série de concerts en Belgique, à Bruges et à Charleroi, où vous jouerez cette fois-ci le triple concerto de Beethoven. Et donc, un autre enregistrement à venir avec Szymanowski. Et la troisième sonate de Chopin, un enregistrement qui est déjà en boîte ou que vous allez réaliser?
C'est déjà enregistré. J'ai déjà reçu d'ailleurs le premier master à réécouter, mais il faut que je l'écoute.
Voilà. En attendant de découvrir ce nouvel enregistrement, selon ce régal avec ces deux concertos de Mozart, et puis on va se replonger dans votre premier album, magnifique album Brahms. Merci beaucoup, Jonathan Fournel, d'avoir passé un moment avec nous.
Merci à vous.
Quelques notes de la troisième sonate de Brahms sous les doigts de Jonathan Fournel.
Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir alors.
Ce soir, une jeune voix déjà sur la voie VOIE du succès.
En effet, alors, Juliette May, le grand public l'a découverte à la télévision il y a une quinzaine de jours. Souvenez-vous, c'était à l'occasion des Victoires de la musique classique où elle a décroché le précieux Sésame dans la catégorie des révélations lyriques. Il faut dire que la mezzo toulousaine, dont l'agilité et la solide technique belcantiste illuminèrent dès les premières minutes de la cérémonie le plateau du Quorum de Montpellier, s'annonce déjà comme une rossinienne incontournable pour les années à venir. C'est d'ailleurs chez Rossini qu'on entendit au cours de la soirée, entre autres dans le célèbre Non più mesta d'Angelina, extrait de la Cenerentola. C'est encore dans Rossini qu'elle fit, pas plus tard que la semaine dernière, des débuts remarqués. On lisera la suivante d'Aménaïde dans Tancrède, c'était sur la scène de l'Opéra de Rouen. Mais c'est aussi déjà chez le Cygne de Pesaro qu'une partie du public parisien l'avait découverte la saison dernière. C'était dans Une Cenerentola, la réduction participative conçue pour les familles du chef-d'œuvre de 1817. Et c'est toujours chez Rossini qu'elle avait séduit une partie du jury du dernier concours Reine Elisabeth consacré au chant, décrochant sa place pour la finale grâce au Tanti Affetti de la Donna del Lago.
Un compositeur qui lui colle à la peau et à la voix, comme à deux de ses grands modèles.
Eh oui, Cecilia Bartoli d'une part, Karine Dehaye de l'autre. La première l'a d'ailleurs invitée dans quelques semaines au festival de Pentecôte de Salzbourg, où elle se produira dans la maison nude de Mozart, accompagnée des musiciens du Prince créés par Bartoli. Et c'est des mains de la seconde qu'elle reçut le 29 février dernier, jour anniversaire de Rossini, décidément, sa victoire comme révélation lyrique. Un compositeur, Rossini, qu'elle a alors chanté, concède-t-elle, c'est vraiment la joie, l'opéra, dans ce qu'il peut avoir de plus lumineux, jubilatoire, à chanter et écouter, dit-elle, même si cette tête bien faite sur une voix agile prévient, pas question pour elle de se précipiter, malgré les sollicitations qui affluent déjà depuis sa victoire. Les premiers rôles rossiniens, elle entend bien les aborder, bien sûr, mais pas tout de suite. Elle compte pour le moment sur Mozart, elle rêve notamment d'un chérubin, et naturellement sur la musique baroque pour, explique-t-elle, accompagner encore sa voix dans sa croissance dans les mois qui viennent.
Il faut dire que, comme Cecilia Bartoli, Juliette May a une vraie attirance aussi pour la musique baroque, Thierry.
Oui, Juliette fait d'ailleurs partie de la dernière promotion du Jardin des Voix de William Christie. Elle participera à ce titre à la tournée de The Fairy Queen des Arts Flow, qui l'emmènera cet été jusqu'à Tanglewood aux États-Unis. Après un passage, excusez du peu, sur la scène de la Scala de Milan, tout de même. Avant ça, eh bien, on la retrouvera sous d'autres latitudes baroques, entre autres à l'Opéra Royal de Versailles, pour une version de concert de Platé de Rameau dirigée par Valentin Tournet, ainsi qu'à l'Opéra Toulon, pour le couronnement de Poppée de Monteverdi sous la baguette de Leonardo Garcia Alarcón. Ce sera dans quelques semaines.
Un goût du baroque hérité de son enfance.
Et oui, et de sa formation maîtrisienne. Elle est née dans une famille de mélomanes, mais elle a fait ses premières armes dans le classique muni d'un archet, d'abord, en tant que violoncelliste, avant d'intégrer finalement à 11 ans la maîtrise de Toulouse. C'est là, à raison de 7 à 8 heures de chant par semaine, raconte-t-elle, passée à défricher chaque semaine de nouvelles œuvres, en grande partie baroque, qu'elle attrapera le virus du chant, confortée ensuite par ses premiers solos à l'adolescence et une fréquentation assidue du Capitole de Toulouse en tant que spectatrice. Elle l'avoue. D'ailleurs, si elle peut se vanter d'avoir déjà eu l'occasion de faire ses premiers pas au Palais Garnier, c'était à l'occasion du ballet Meyerling où elle chantait un air, et fera bientôt, grâce au Jardin des Voix, ses débuts à la Scala, eh bien il est une scène dont elle rêve par-dessus tout de fouler les planches dans les années à venir. C'est évidemment celle du Capitole de Toulouse.
Un air de la Cenerentola de Rossini, chanté par Juliette May, avec ici l'Orchestre Symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu, capté lors du concours Reine-Elisabeth 2023. Juliette May, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry, merci beaucoup.
Merci à vous, là.
Et à la semaine prochaine, merci à Amandine Legris pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du chef américain Kay Scallion, le chef de l'Orchestre National d'Île-de-France.
En fait, c'est 50 ans.
Eh oui, et lui n'a pas encore 50 ans.
Exactement, c'est l'orchestre.
Et tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.